Moi, je suis Christine Belle-Rose. J'ai un petit nom aussi, on m'appelle Cricri. C'est un nom qui sert surtout en anglais, Cricri, parce que j'aime pas qu'on m'appelle Christine. Je suis docteur en danse, donc j'ai un doctorat en philosophie de la danse de l'Université York. Et même dans le réseau académique, on m'appelle Cricri. Je suis neurodivergente, donc je suis neuroqueer. Et j'ai appris à comprendre les codes sociaux, mais lorsque j'étais jeune, je ne savais pas qu'il y avait des codes sociaux. Donc, mon expression artistique en a bénéficié parce que moi, j'écrivais les poèmes, je faisais des pièces de théâtre moi-même, je m'assoyais dans les marches à l'école pour pratiquer ma guitare. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit ou je ne savais pas qu'est-ce que je tournais en rond autour des autres qui étaient en rang. Au secondaire, je m'assoyais dans le cadre des fenêtres, je regardais dehors. Je comprenais peu que c'était atypique ce que je faisais. Puis j'ai eu, mais la grande chance, quand j'étais au primaire, puis ensuite au secondaire à De La Salle, qu'on me laisse faire. Et jamais personne qui m'a donné une punition parce que j'écrivais. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Non, tu ne peux pas aller dans la bibliothèque pratiquer ta guitare. » Je fais de l'art, l'expression mouvement depuis toute petite, par plaisir et aussi parce que mes parents m'ont épaulé, m'ont encouragé, ont été très participatifs à m'amener dans des sessions de soit patin artistique ou musique classique ou ballet. Puis vraiment, ce qui m'animait, c'était l'expression mouvement expressif. En autant que ça bouge, puis que je puisse faire bouger mes cheveux, rouler par terre, me vautrer sur le plancher, tourner en rond, j'aimais beaucoup ça. J'ai quand même été plus éduquée en théâtre. Parallèlement, je faisais le conservatoire de musique classique en guitare classique à Hall, qui est maintenant Gatineau. J'ai continué ensuite en mode. J'ai travaillé en design. J'ai fait beaucoup de stylisme. Ça m'a amené à travailler avec des magazines de mode, un peu avec toutes sortes de modèles, les top modèles, que ce soit à Miami, à Vancouver, des gens qui allaient faire des runways à Paris ou au Japon, ou à Montréal pour la mode des magazines qu'on a locaux ici. J'ai travaillé aussi avec les films. Puis éventuellement, je me suis rendue en Asie parce que j'avais pris un cours au collège de commerce international parce que j'étais intriguée par enfin ne plus être pauvre. Donc, j'étais quand même un petit peu tannée d'être pauvre. Je me suis rendue en Asie et j'ai travaillé un an en Chine en tant que directrice de marketing et branding et color forecasting. Donc, je choisissais les couleurs 4 ans à l'avance pour teindre les cuirs qui allaient servir de chaussures athlétiques, comme par exemple à Adidas ou à Reebok. J'ai dû partir de la Chine en 2008 pour des raisons de visa. C'est ça. Il y avait les Olympiques, on n'a pas eu de visa. Je suis revenue au Canada. Et là, je me suis dit, la vie est chère, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à travailler dans les petits restaurants. Je trouvais que je n'avais pas de qualité de vie. Je me suis rendu compte qu'au Conseil des arts, que ce soit municipal ou que ce soit canadien, on me demandait des photos sur mon parcours alors que je n'avais pas fait attention en Chine. J'étais restée là 10 ans. Je n'ai pas fait attention à faire des collections de photos. Mon portfolio en mode datait du début des années 90, ça n'avait pas rapport. On ne me plaçait pas comme artiste. Est-ce que je faisais de la danse? Est-ce que je faisais de la littérature? Est-ce que je faisais du théâtre? Mon Dieu, est-ce que je faisais du cinéma, de la photographie? Et puis finalement, je me suis dit, bon, ben, je vais retourner à l'université. J'aime ça étudier. J'ai fait un doctorat. Je me suis rendue à Toronto. Pendant la pandémie, je suis revenue à Gatineau, mon amour de l'Outaouais. J'ai rencontré Jo Mignot, j'ai rencontré Dominique Laurent, qui est devenu mon mentor, tout comme Jo. J'ai rencontré tout plein d'artistes ici dans l'Outaouais, avec Trace Visuel, Art Visuel aussi beaucoup, Culture Outaouais aussi. Et puis, je me suis relaissée tomber d'amour dans les arts. Et j'ai continué à faire le travail que je faisais en tant qu'artiste et chercheur, mais plus tourné vers le public, plus accessible au public, et ça continue. Alors, présentement, et depuis 2012, je me suis tournée vers le travail complètement à l'extérieur, soit dans la nature ou urbaine, mais le plus souvent... retirer des lieux urbains, en particulier parce que je travaille avec la peau, je travaille avec mon corps. Donc, je fais ce que j'appelle de l'expression artistique ou un mouvement expressif. Ça peut ressembler à de la danse. Et c'est la rencontre entre les éléments, le vent, le froid, les textures de la neige, les textures du sol boueux, de la roche, la chaleur qui peut venir, le soleil, qui vont être la pulsion pour le développement expressif des mouvements que mon corps va faire. Je travaille habituellement nue, mais un petit peu moins depuis 2-3 ans, juste parce que mon corps n'a pas toujours envie d'être exposé nu, ni en galerie, ou devant les gens. C'est pas mon but de faire freaker les touristes qui vont passer par là puis voir la popourine qui sortait. Et je travaille toujours avec un grand, grand, grand tissu très long. Depuis 2019, ce tissu, c'est plusieurs mètres de tissu long qu'on peut acheter dans un magasin de tissu. Donc, il n'est pas cousu. Ça va me servir un peu genre de cerf-volant. Je m'enroule dedans, je le tire, je travaille avec le vent, je fais des formes, je me masque, je me dévoile, ce qui fait de la sculpture vivante. En réalité, mon médium artistique, c'est éco-somatique, éco-performance.
Wow! Je vais maintenant te montrer quelques phrases qui parlent de la résistance à travers de l'art, des croissances personnelles et du syndrome de l'imposteur. J'aimerais que tu me dises laquelle résonne la plus avec toi et pourquoi.
La résistance est invisible. Je suis invisible pour beaucoup de cadres disciplinaires et aussi de société artistique, de cadre de société des arts professionnels. Par exemple, justement, j'avais la misère à choisir entre cette phrase ou la phrase de Virginia Woolf qui dit « On n'a pas besoin de se presser, on n'a pas besoin de briller, pas besoin d'être qui que ce soit d'autre que soi-même. » Et pour moi, l'art, c'est ma façon de voir la vie. C'est très attaché à ma neurologie. C'est attaché aussi à ma façon d'être identitaire. Pour moi, être soi-même, comme Virginia Woolf dit, ne pas se presser, ça fait que tu commences à vivre comme tu es, puis à 85, si tu peux te rendre à 90 avec presque toute ta tête, puis une mobilité qui peut te servir. Elle va être réduite, ta mobilité, mais qui peut te servir. Tu peux toujours entrer dans un espace d'extase performatif où tu vas être devant un brin d'herbe qui rougit à l'automne. Puis si tu veux faire de l'art avec, si tu veux partager cette extase-là performative que tu vois avec le vent, le ciel, le bruit des marcheurs, les écureuils qui font tac, 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 toujours l'impression que tu es un plus grand animal qui s'en vient, ça fait tellement de bruit. Si tu veux partager ça, tu le transformes, puis là, tu le présences, tu en fais une présence, eh bien, tu n'as pas besoin de te dépêcher. Tu peux travailler sur cette présence de partage artistique pour ton public, dans ton extase artistique, toute ta vie. À 90 ans, si tu as juste un doigt qui bouge, tu peux quand même faire cet art-là. Mais le syndrome de l'imposteur, je l'ai appris donc dans le cadre de recherche universitaire. Puis, je me suis penchée sur la question à savoir est-ce que moi, j'ai ce syndrome-là? Jamais. 100% du temps, j'ai jamais le syndrome de l'imposteur parce que je fais toujours ce que je veux. Je fais toujours de la recherche sur ce qui m'intrigue. Puis, en bout de ligne, ça passe ou ça casse. Souvent, ça a cassé. Oh, je suis vraiment pas la seule pour qui ça a cassé. Ça casse pour plein de monde. Mais les fois que ça passe fort. J'ai jamais eu la force d'arrêter d'être artiste. À chaque fois que j'ai essayé de... Puis là, je parle d'argent parce que ma forme d'art, là, vraiment, là, faire d'expression, performance, éco-somatique avec le vent, c'est pas payant, là. Donc, j'ai quelquefois dans ma vie arrêté mon travail pour essayer de faire des sous, avoir un appartement qui a plus de sens, et renouveler ma garde-robe ou m'assurer d'un confort immédiat, là. Et ça incluait un travail qui n'était pas artistique. J'ai rarement fait un revenu adéquat, régulier, de longue échéance, avec un travail artistique. Donc, la force que ça me prend d'arrêter, c'est d'être pauvre, la pauvreté. Vraiment la pauvreté. Puis la pauvreté, ça m'empêche de voyager, ça m'empêche d'être là pour les amis qui sont dans le besoin, ça m'empêche d'être là quand il y a des jeunes qui viennent visiter, je ne peux pas aller prendre un café avec eux, j'ai honte parce qu'ils vont me payer le café, ça ne marche pas, et ça m'empêche de, ben, les dettes, de faire des gros projets. Donc, la force de continuer, c'est juste, c'est mon identitaire. Donc, soit je marche, soit je vis. Tant que je vis, je vais être artiste.
On arrive à la fin. Et si tu devais donner un seul mot comme conseil à une autre personne artiste ou un cheminement créatif, quel serait-il? Et j'aimerais que tu le dises et après, on va l'écrire.
OK. Ouais, tu m'as donné la permission d'avoir un tout petit mot ensemble avec un trésillon, c'est « vas-y ».